Décryptualité. Le podcast qui décrypte l'actualité des libertés numériques. Semaine 7, salut Manu.
Salut Mag.
Salut Luc.
Bon, et eh bien Manu, qu'est-ce qu'on a au sommaire cette semaine?
On a un petit sommaire, pas grand-chose à se mettre sous la dent.
Oui, la revue de presse bégaye un petit peu, puisqu'on a quand même pas mal de sujets qui étaient déjà là la semaine dernière.
Et carrément.
France Inter, que reste-t-il de l'Internet libre? Un article de Christine Siméon.
Ça reparle de John Perry Barlow, qui avait lancé tout un texte à propos de l'Internet libre et de la manière dont il fallait le défendre contre les institutions et les États. Et ce texte fait des enfants, fait des petits, il y a plein de gens qui le reprennent à leur sauce.
D'ailleurs, à ce sujet, je conseille d'aller voir le Framablog et l'article écrit par J, qui est vraiment assez intéressant.
Numérama, l'État dévoile la liste des logiciels libres qu'il recommande, un article de Julien Lausson.
Alors ça fait très plaisir de voir qu'encore une fois, l'État recommande des logiciels libres, et là il fait toute une liste de ce qu'on peut utiliser, ce qu'il faudrait utiliser dans
ce
les administrations.
Ce qu'il recommande en tout cas, oui.
Donc c'est plutôt intéressant, il y a toute une liste à aller voir, et ça encourage justement à utiliser les logiciels choisis.
ZDNet France, les logiciels libres dans l'État, enjeu de sécurité et de souveraineté pour la Cour des comptes, un article de Thierry Noisette.
On reprend le sujet de la semaine dernière, je pense que ça va rester d'actualité encore quelques temps. Donc la Cour des comptes recommande à l'État, aux administrations, d'utiliser des logiciels libres.
Libération, données personnelles, défendons nos liens plutôt que des biens. Un article de Lionel Morel. Lionel Morel étant connu également sous le pseudo de Calimac, c'est quelqu'un d'extrêmement calé dans son domaine et de très sympa.
Donc allez jeter un œil, c'est vrai qu'il y a des propositions assez étranges pour protéger la vie privée, les informations personnelles.
En disant on va mettre de la propriété dessus, c'est à nous, donc si vous les exploitez, voilà. Il faut nous payer.
Et clairement, c'est des idées qui se font descendre, notamment dans cet article.
Et donc maintenant, on va parler du sujet qui nous intéresse, c'est-à-dire des alternatives de monnaie. Et donc, on a perdu Luc, mais on a gagné Squeak. Qui es-tu, Squeak?
Bonjour. Eh bien, je suis un papillon libriste qui s'intéresse à plein de choses, et notamment, depuis quelques temps, je fais partie du collectif Monnaie Libre Occitanie, mais on en reparlera plus tard.
Donc, tu parles de logiciels libres, tu parles aussi d'économie, quelque part, de brousouf, de pognon, d'argent?
De thunes.
De
thunes.
De flouze.
De flouze. Il y a en ce moment des monnaies alternatives qui sont déjà en train d'émerger largement. On en parle même au journal télévisé, au journal de 20h. Les bitcoins.
Oh non, pas les bitcoins, ça suffit les bitcoins.
Les Ethereum, il y en a des dizaines d'autres qui existent. Ça fait jaser. Et c'est des modèles un peu novateurs. Sachant que le modèle de la monnaie lui-même, c'est les monnaies, disons, dettes. Quand on crée de la monnaie, on crée de la dette et on doit s'endetter pour créer tout l'argent qu'on a dans nos poches. Il vient d'une dette créée par les banques, notamment.
C'était parce qu'on s'endettait que ça créait de la monnaie.
C'est les deux en même temps, en fait. Et effectivement, le Bitcoin en premier lieu et les autres crypto-monnaies, quand elles sont arrivées, ont permis de sortir de ça parce qu'on crée de la monnaie par des moyens mathématiques, on va dire. Et donc, c'est un système qui permet de changer le paradigme complet de création de la monnaie. Ce qui ne veut pas dire que l'utilisation en elle-même change forcément beaucoup, mais la création monnaie à son importance.
C'est-à-dire qu'à l'origine, souvent, l'argent, mais l'or, c'était des métaux qui étaient la base de nos échanges. Plutôt que de troquer, on passait par un petit intermédiaire qui était souvent un métal précieux. C'est quand qu'on a déjà commencé à faire ce changement vers le papier, vers des monnaies non basées sur du métal?
Ça fait un peu plus de 100
ans déjà. Les Chinois
déjà
ont sûrement dû commencer à le faire avant nous. Ont déjà fait tout avant nous, et largement.
Mais effectivement, ça fait un moment déjà qu'on utilise des bons qui remplacent de la monnaie. Et puis au bout d'un moment, les gens se sont rendus compte qu'ils pouvaient mettre plus de bons que ce qu'ils avaient fait avant. Tant que tout le monde ne venait pas réclamer son or en échange de son bon, ben ça se passait bien.
Alors là, ça sent le crash banque.
Ah mais
la banqueroute et compagnie,
bankrun, la course à la banque où tout le monde veut aller transformer son argent papier en argent sonnant et trébuchant. Et ça a existé plusieurs fois dans nos économies occidentales. Les banques sont surchargées de gens qui viennent le matin réclamer leur or, leur argent physique, parce qu'ils sentent qu'il y a un problème sur l'argent virtuel, le papier. Et ça, c'est un truc qui a existé plein de fois.
Ah mais du coup, si elles prêtent plus qu'elles ne possèdent réellement, bah forcément la banqueroute. Comment ça se fait que des banques puissent prêter plus qu'est-ce qu'elles n'ont?
Eh bien, en fait, c'est le système actuel qui fonctionne comme ça. Il ne peut fonctionner que parce qu'on continue à prendre des crédits pour créer de la nouvelle monnaie. Pourquoi? Parce que quand on prend un crédit, au fur et à mesure qu'on le rembourse, la monnaie est détruite. Sauf qu'après, on doit encore les intérêts. Ah! Donc cette monnaie pour les intérêts, il faut bien qu'elle vienne de quelque part. C'est que soit nous on a pris un autre crédit, soit on a travaillé pour gagner de l'argent. Quelqu'un à un moment ou à un autre a dû créer en prenant un crédit. Donc c'est une roue sans fin qui va finir par nous écraser.
Et donc c'est bien qu'il y ait des monnaies alternatives.
Exactement. Il y a des solutions intéressantes qui sont arrivées. Par contre, vous avez peut-être entendu parler que, notamment le Bitcoin, je vais dire Bitcoin potentiellement pour dire crypto-monnaie en général, hein, une bonne partie d'entre elles, pas toutes, il y a des alternatives aux alternatives déjà, une bonne partie d'entre elles posent des problèmes notamment écologiques. écologique. Pourquoi ? Parce que le fait de miner du Bitcoin, c'est-à-dire qu'on utilise, comme je disais, des calculs mathématiques pour créer la monnaie, et pour ça on utilise des ordinateurs, on n'est pas fou non plus. À chaque fois qu'il y a de la monnaie qui est créée de cette façon-là, eh ben, la personne qui a fait le calcul récupère cette monnaie, ou au moins une partie, mais en général elle récupère
toute la
monnaie.
Mais du coup, elle utilise de l'électricité, elle utilise un ordinateur.
Un ordinateur, voire maintenant c'est souvent des cartes spécialisées là-dedans, parce qu'un ordinateur c'est trop générique et pas assez efficient en énergie, justement. Ça consomme une énergie folle, qui coûte cher en monnaie, dette pour le coup.
Et du coup, les mineurs minent exactement la même chose, c'est le plus rapide qui gagne, mais c'est reproduire c'est plusieurs course. Fois le même travail.
C'est une course, c'est-à-dire que tout le monde va essayer de faire plus ou moins le même calcul. Bon, il y a plusieurs réponses au calcul, mais bon, le premier qui trouve une des réponses qui marche, c'est lui qui remporte la mise, et les autres ont fait tout le calcul pour rien.
Donc ils reprennent à zéro, et statistiquement, ils savent qu'ils vont trouver un nouveau bitcoin, enfin des blocs exactement, ils vont statistiquement avoir une chance sur temps de trouver des blocs, et s'ils le font suffisamment longtemps, ils vont rentrer dans leur frais.
En fait, le truc, c'est que tout est basé sur cette récompense. Quand on va créer le bloc, on va la création monétaire, on la récupère. C'est ça qui crée une course sans fin.
Et c'est ça qui consomme l'équivalent de centrales électriques entières. Et on sait que ça est en train d'augmenter. Il y a de plus en plus de gens qui consomment de l'électricité en renfort de PC installés dans des zones bien particulières où l'électricité n'est pas chère.
Du coup, c'est pas écologique. Ça encourage la spéculation, parce qu'on a bien vu le Bitcoin qui passe de pas grand-chose à 20 000 euros, puis qui retombe à 6 000 euros.
C'est un système inflationniste. Hein. Le nombre de Bitcoins qui peuvent être générés est limité. On sait que ça doit être 23 millions, 26 millions. Donc ça, c'est l'algorithme mathématique qui définit ça.
Bon, il n'y aurait pas une alternative plus propre ?
Il y en a, alors potentiellement plusieurs, mais je vais vous parler d'une. Donc je ne vais pas vous parler de thune, mais de june. La june qui s'écrit avec un G, avec une brève, c'est un petit accent un peu particulier, c'est qu'un demi-cercle au-dessus du G et un 1. C'est au féminin notamment parce que c'est sorti il y a bientôt un an maintenant, le 8 mars 2017, et le 8 mars c'est la journée du droit des femmes. Et donc on a choisi de féminiser cette monnaie.
C'est une très bonne idée.
Et pourquoi pas. On essaie d'en avoir de temps en temps, c'est pas tous les jours.
Alors c'est une monnaie qui nécessite beaucoup d'électricité.
Donc déjà, c'est une crypto-monnaie aussi, pour replacer dans le contexte. Elle utilise de l'électricité, elle utilise, comme le Bitcoin, la preuve de travail, c'est-à-dire ce calcul mathématique avec la cour, même s'il y a des alternatives qui sont à l'étude,
pour essayer de voir si on peut trouver notamment.
Mieux. Bah, la preuve de possession ne nous convient pas trop non plus, parce que le fait de dire que c'est les plus riches qui calculent, ça nous rappelle un peu un système comme celui qu'on a déjà. Donc, bon. Mais une des grosses différences, c'est que la monnaie qui est créée n'est pas donnée aux mineurs, ou à celui qui a fait le calcul, elle est distribuée à tout le monde de façon égale dans l'espace et dans le temps.
Waouh.
Ouais. Alors, je vais détailler un petit peu parce que ça fait toujours un petit peu bizarre. Alors, dans l'espace, c'est facile. À un instant donné, donc dans le cas de la june, la monnaie est créée une fois par jour. Donc, chaque jour, la monnaie qui est créée par chacun des membres de cette monnaie, on est tous co-créateurs de notre monnaie, cette quantité de monnaie, c'est la même pour tout le monde. Donc là, c'est assez simple. Ça, c'est dans l'espace. Maintenant, dans le temps. Le but dans le temps, c'est quoi ? C'est de se dire que ben, on veut pas avoir une génération qui est avantagée par rapport à une autre.
Une génération d'individus, c'est-à-dire les jeunes des années 80, ou les jeunes des années 2000, ou les jeunes des années 2020.
Exactement. Ça veut dire quoi ? Que quelqu'un qui rentre, admettons, à 20 ans dans la monnaie libre aujourd'hui, ou quelqu'un qui rentre à 20 ans dans la monnaie libre dans 80 ans, au cours de sa vie, en moyenne, on estime qu'il va vivre à peu près 80 ans dans nos contrées, en tout cas pour l'instant, il va créer la même quantité de monnaie par rapport à la masse monétaire totale. Parce que c'est ça qui est important pour savoir si on est riche, c'est la quantité de monnaie qu'on a par rapport à la masse monétaire totale.
Donc en fait, on récupère une sorte de portion relative qui est équivalente.
C'est ça.
Et c'est donc pour c'est ça que c'est basé sur la TRM.
La théorie relative de la monnaie. Voilà, donc cette quantité qu'on crée tous les jours, on appelle ça le dividende universel. Moi, je suis arrivé dans cette monnaie-là par le biais du revenu de base. Donc effectivement, il y a un revenu qui est créé à intervalles réguliers. Est-ce qu'il est de base ou pas, ça, pour l'instant, on n'a pas trop moyen de savoir comment ça va évoluer, c'est une monnaie qui est très jeune, donc... Mais voilà, ce serait mon souhait dans l'idéal, un jour, avec des bisounours et des licornes, que puisse effectivement au moins survivre à minima avec un dividende universel.
Alors, je reviens en arrière, la TRM...
Théorie relative de la monnaie, qui c'est-à-dire... est tout un concept inventé par Stéphane Laborde.
Exactement, Stéphane Laborde, alias Galuel, qui est un ingénieur et mathématicien, qui a sorti en 2010 la première édition de la théorie relative de la monnaie. La dernière édition date de 2013, je crois. C'est très mathématique, mais maintenant que la monnaie est lancée, moi déjà, le concept me sentait bien, mais je me suis aperçu que c'est une monnaie qui est beaucoup plus humaine que ce que je pensais. Alors déjà, il y a le fait que la quantité de monnaie qui est créée soit basée sur le dividende universel soit basée sur l'espérance de vie humaine, c'est la seule variable qu'il y a dans le cette formule-là. Moi, je trouve ça magnifique. Mais en plus de ça, en fait, pour savoir qui est membre et qui ne l'est pas, on utilise une toile de confiance, un petit peu sur le même principe que PGP ou GPG, c'est-à-dire qu'on va se certifier les uns les autres pour savoir qui est membre.
Et le but étant que chaque membre reçoit une portion tous les jours, donc son dividende, et il ne faut pas qu'un membre soit déclaré 2 fois, 10 fois pour percevoir 2 ou 10 dividendes, ce qui serait injuste.
Exactement. Donc pour ça, on doit être certifié par 5 personnes, et puis il y a d'autres règles, notamment ce qu'on appelle la règle de distance, qui permet d'éviter les attaques civiles. Donc justement, ce que tu disais à l'instant, 5 personnes qui se mettent d'accord pour créer des faux comptes et ramasser le dividende universel.
Mais alors du coup, est-ce qu'en tant qu'entreprise, on peut s'inscrire ? Est-ce qu'en tant qu'association, on peut s'inscrire ?
Tout à fait. En fait, une entreprise ou une association ou n'importe quelle forme, y compris des particuliers, peuvent créer autant de comptes qu'ils veulent, mais des comptes non membres. On n'a pas besoin d'être membre pour utiliser
la
dividende.
Monnaie.
Sans dividende universel, exactement. On peut utiliser la monnaie, mais on ne créera pas le dividende universel. C'est uniquement à ça que sert le statut de membre. C'est pas du tout obligatoire pour utiliser la monnaie. C'est très important.
Et donc ça peut être une monnaie dans le même sens que les autres aujourd'hui, avec un certain anonymat, avec des échanges non tracés qui peuvent terminer dans la nature sans qu'on contrôle exactement.
Alors, comme la plupart des crypto-monnaies, tout est enregistré dans la blockchain. Maintenant, un compte qu'on appelle un compte portefeuille, un compte simple, on n'a pas vraiment de moyen de savoir à qui il est. Donc au final, dans quelle mesure est-ce que c'est anonyme ou pas ? Il y a des moyens de remonter, mais il y a aussi des moyens d'anonymiser en mélangeant avec X personnes ensemble une même quantité de monnaie, puis en redistribuant vers d'autres comptes qui appartiennent à on ne sait pas qui. Au final, ça permet de faire des choses à la fois anonymes ou non. Donc tout ce qui est pour des choses publiques, par exemple une association, pour tenir ses comptes, ben, c'est facile, hein, tout est dans la blockchain, tout est là.
Et alors, est-ce qu'on peut savoir qui utilise ou qui possède des junes dans notre ville ? Parce que c'est plus facile
et
d'échanger.
Et combien il y a de membres ?
Combien il y a de membres, on le sait, non, en allant sur le site ?
En fait, là, aujourd'hui, on a dépassé les 700 membres.
Hier, on était à 719.
Voilà.
Donc c'est tout jeune. Hein.
C'est tout jeune, mais en fait, ça augmente de plus en plus rapidement. On est parti à 59 il y a un an, et ça de plus en plus vite.
Vous êtes parti sur Toulouse, c'est ça ?
Non, c'est parti d'un certain nombre de lieux un peu en même temps. Il y a des développeurs, il y a un pôle assez fort en Mayenne, il y en a sur Paris, il y en a...
Sur Rennes ? C'est Rennes qui avait le plus de comptes enregistrés ?
Ouais, sur la carte en tout cas.
Voilà.
C'est à Rennes qu'il y a le plus de personnes qui ont mis les infos sur la carte, mais bon... Mais sinon, voilà, ça commence à déborder un peu en Belgique, en Suisse. Il y a un mainteneur Debian qui est au Danemark et qui est membre de la monnaie. Voilà.
Et du coup, si je veux acheter des choses ou si je veux dire je vends des choses, je vais où pour le dire ?
Alors, on a 2 sites principalement qui existent, enfin, en plus d'un forum, mais on a principalement 2 sites qui sont J'annonce, donc J-A-N-O-N-C-E.fr et J'échange, J-C-H-A-N-G-E.fr aussi, qui permettent de poser des annonces de « je propose ça » ou « je cherche ça », on propose nos prix.
Bon, donc, on sait quoi faire.
T'as envie de t'inscrire. Hein.
Ah, moi, j'ai très envie d'utiliser les Junes.
Donc maintenant, il va falloir trouver les 5 certifieurs.
Ça va être plus compliqué, c'est vrai, que trouver 5 personnes, et c'est mieux si elles se connaissent pas entre elles ou...
Il n'y a pas de nécessité brute, mais c'est vrai que si elles ne se connaissent pas entre elles, ça va permettre d'avoir une toile un peu plus dense et donc qui va permettre de faire rentrer plus de membres à long terme.
Alors du coup, il faut 5 certifications au départ, mais est-ce que c'est utile d'en avoir de nouveau, continuellement, constamment ?
Oui, tout à fait. En fait, déjà, des certifications, elles durent 2 ans. Si jamais on s'amuse à ne certifier que des nouveaux entrants, ben, très rapidement, la règle de distance que j'ai évoquée tout à l'heure, sans la détailler, va bloquer la toile. On pourra plus faire rentrer personne. Donc ce qui est important, c'est oui, justement, si vous connaissez des gens qui sont déjà dans la June, même s'ils sont déjà membres, oui, certifiez-les, entre-certifiez-vous, parce que ça permet de voir les liens entre les gens, et encore une fois, pour moi, c'est un point fort de cette monnaie, même si elle n'est pas locale. Tu parlais de Toulouse tout à l'heure, parce que je fais partie de Monnaie Libre Occitanie, qui est juste un collectif qui défend la monnaie libre en Occitanie. La monnaie n'est pas du tout locale, mais le fait de chercher des certifications va faire que des gens vont se rencontrer, que des échanges vont se faire, on va localiser des échanges économiques. Pas besoin d'avoir une monnaie qui nous impose d'avoir des échanges locaux si finalement, entre aller dans un grand magasin acheter quelque chose ou aller l'acheter à quelqu'un que je connais, le choix est vite fait, je vais aller l'acheter à quelqu'un que je connais.
Du coup, on va s'arrêter là. Manu, un petit mot ?
Alors, pas grand-chose, je pense qu'il y a quelque chose de très novateur et de très intéressant. Des mélanges politiques, économiques sont à creuser et il faut que tout le monde sache comment on crée la monnaie, c'est pas le cas aujourd'hui. Et en creusant sur ça, en se rendant compte comment on crée la monnaie actuelle, on va se rendre compte que oui, il faut bouger le système, il faut le changer, il y a quelque chose à faire évoluer.
Et merci à tous les deux.
Merci à vous.
À bientôt.
À bientôt.
À bientôt.